Chapitre 68. 26 décembre 2017. Marie Castille relit plusieurs fois la lettre d'Étienne. D'habitude, c'est elle qui questionne, passe à tabac. C'est elle qui juge l'existence pathétique des prévenus, leurs écarts, égarements, folies. Ce matin, c'est la vie qui la place en garde à vue, la juge sans ménagement. Elle la repose sur le lit. Elle a toujours su qu'il serait de passage, qu'il ne resterait pas. Pas à cause de la maladie, mais d'une autre femme. Elle a toujours pensé qu'elle devrait se battre contre des rivales. Étienne, malade. Comment est-il parti? Leur voiture égarée dans la cour. Sans doute avec celle de Nina. Ou alors ils sont dans un train. Peut-être même un avion. Sans doute déjà loin. Marie Castille tremble de tout son corps. Elle réalise qu'elle ne reverra jamais son mari, qu'il vient d'organiser son départ. Par réflexe, elle tente de lui téléphoner. Messagerie. Comment Étienne a-t-il pu manquer de confiance en elle à ce point? Partir en déposant une lettre d'excuses et d'explications sur l'oreiller. C'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qu'abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Ce matin, elle se sent aussi seule qu'un chien jeté sur le bord de la route des vacances. Un rebut, une pile morte. On a l'âge des attentats du 11 septembre, disait-il quand on leur demandait depuis combien de temps ils se connaissaient. Ils se sont rencontrés devant un poste de télé, celui d'un dealer et ses deux complices que leur brigade venait d'appréhender. Étienne faisait partie du commissariat de Lyon 6e arrondissement et elle venait d'être affectée à celui de Lyon 1er. Comme les individus étaient dangereux et armés, on avait fait venir du renfort. Au moment de quitter l'appartement, Marie Castille a poussé une porte et découvert un homme assis dans un fauteuil devant la télévision. Il était seul. Il portait le bandeau police autour du bras. Il ne l'a pas vu pénétrer dans la pièce, comme hypnotisé par les images d'Apocalypse. Quand il l'a senti près de lui, il a juste dit « J'ai coupé le son, c'est insupportable », sans même savoir à qui il s'adressait. Et là, alors qu'une partie du monde se fracassait et qu'il n'y avait que de la fumée sur l'écran de télé, Marie Castille est tombée amoureuse. Tombée amoureuse le jour où des milliers d'innocents mouraient et allaient mourir là-bas, ici et ailleurs. Cela aurait dû être interdit par une sorte de loi intérieure, une déontologie du cœur, un trop mauvais présage, mauvais karma, mauvais début, mauvaise rencontre. Alors que son être aurait dû être fermé à toute forme d'intrusion, son amour est bel et bien né le jour des attentats du 11 septembre. Son téléphone portable vibrait sans cesse dans sa poche de jean. Elle aurait dû répondre immédiatement, mais elle a pris place près de lui, sur l'accoudoir du fauteuil, presque contre lui. Son épaule frôlait son bras. Elle l'a respiré. S'est retenue de poser une main dans ses cheveux. Elle l'a regardé les images, pendant que le propriétaire des lieux l'attendait dans une cellule pour être interrogé. « Comment vous appelez-vous » a-t-elle fini par articuler. « Lieutenant Beaulieu. »« Commissaire Blanc. »« Vous êtes la nouvelle ?» lui a-t-il demandé sans aucune gêne alors qu'il s'adressait à une supérieure hiérarchique. « Oui. » Il lui parlait sans décoller les yeux de la télévision, comme un adolescent plongé dans le jeu vidéo d'un scénario catastrophe. Ils sont ressortis vers 21h, tenaillés par l'effroi, pour découvrir hébété les rues désertes. Lyon ressemblait à un dimanche de janvier. Tous les habitants étaient rentrés chez eux. Les bars, d'habitude très fréquentés, étaient fermés ou vides. Ils ont avalé un sandwich et une bière, les yeux sur l'écran d'une télévision qu'on avait sortie pour l'occasion et posée en travers sur le comptoir d'un bistrot. Toutes les chaînes repassaient en boucle l'image des deux avions se fracassant contre les parois de verre. Quatre clients regardaient le symbole de la puissance économique des États-Unis s'écrouler comme un jeu de cartes, sans broncher. Marie Castille a demandé où Étienne habitait. « Un petit appart, pas très loin d'ici. Et vous ? Je loue un meublé en vous attendant. » Elle a rougi. « Pardon, en attendant. J'ai peur de rentrer seule le soir. Je peux rester avec vous ?» Étienne ne l'a pas cru. Cette femme n'avait peur de rien. Ça se sentait à la manière dont elle le matait en douce. Elle lui a plu. Un côté garçon, mais paradoxalement très féminine. Des bagues aux doigts, pas d'alliance, une petite dizaine d'années de plus que lui, les cheveux blonds coupés courts, une bouche sensuelle, des yeux verts, un regard à la fois vaurien et curieux. Je vous préviens, c'est le bordel chez moi. Toutes mes femmes de ménage finissent sous anxiolytiques. Elle l'a suivi comme un toutou suit son maître, a découvert la garçonnière d'Étienne. Aucune trace de femme ni d'enfant. Célibataire. Elle s'est immédiatement dit qu'il fallait le prendre dans ses filets avant qu'une autre s'en charge. Intelligemment. Sur la pointe des pieds. Marie Castille enfile un déshabillé et pénètre dans la chambre de Louise sans frapper. Louise ne dort pas. Elle boit un thé. Assise sur le rebord de la fenêtre en fixant la rue. Comme si elle attendait sa belle-sœur. Ça fait longtemps qu'il est malade ?
Oui, sans doute trop longtemps.
Tu savais qu'Étienne allait partir ?
Oui.
C'est pour ça que vous vous engueuliez hier.
Oui, je voulais qu'il t'en parle.
Marie Castille serre les poings en ravalant ses larmes. Les rivières de désespoir et de rancœur la submergent. Et Valentin, il sait ?
Oui, il est tombé sur un échange de textos entre Étienne et moi.
Marie Castille encaisse ce nouveau coup. C'est comme si tout le monde avait conspiré dans son dos. Quel était l'ennemi ou le maillon faible, celle qui n'est pas capable d'encaisser la vérité? Il n'y a vraiment plus rien à faire.
Louise s'effondre. Elle semble épuisée, comme un vaillant soldat qui a perdu ses armes sur le champ de bataille.
Il y a toujours quelque chose à faire, à tenter. Je ne dis pas qu'il aurait guéri, mais un traitement aurait pu prolonger sa vie.
Il le sait?
Je le lui ai dit 100 fois, il n'a rien voulu entendre.
Il a décidé de mourir, dit Marie Castille comme pour elle-même.
Tu sais où ils sont ?
Aucune idée.
Je pense que je mérite la vérité. Je ne sais pas où ils sont, je te jure. Ils sont partis tous les trois dans la nuit.
Nous sommes passés chercher Étienne à 4 heures. Il nous attendait au bout de sa rue, un sac de voyage à l'épaule.
« C'est à qui, cette bagnole ? »
a-t-il demandé à Nina.
« À mon amoureux. »«
T'as un amoureux ? » ?»«
Oui. »«
Un mec normal ? » ?»«
Oui. »
Je n'ai pas mouffeté. Assise à l'arrière, je me suis pincée pour la fermer. Ne pas révéler ce qu'on m'avait rapporté au sujet de Grimaldi. On a roulé jusqu'à Mâcon. Étienne se rongeait les ongles en scrutant une carte d'Europe dépliée sur ses genoux. Il hésitait entre l'Italie et la Grèce.
« Vous pouvez rester avec moi combien de temps ?»
nous a-t-il demandé.
« Depuis que je travaille au refuge, je n'ai pas pris beaucoup de congés. »«
Ça veut dire combien de temps ?»«
Le temps qu'il faudra. »
Étienne s'est tourné vers moi.
« Et toi ?»«
Pareil. » »«
De toute façon, on ne va pas s'éterniser. »
Il n'a pas laissé sa voix se briser. Il s'est tout de suite repris.
Je voulais vous dire merci et pardon aussi. À vous.
Nina et moi avons gardé le silence pendant qu'Étienne traçait du doigt d'éventuels trajets sur la carte. Il a fini par fouiller dans sa poche et en a sorti 1 euro.
Pile, on va en Grèce. Face, en Italie.
Il a lancé la pièce, la retourner sur le dos de sa main.
Face.